RFI, grand reportage.
Guillaume Cordeau.
Direction l'Inde aujourd'hui. C'est le troisième plus important émetteur de gaz à effet de serre dans le monde et ses émissions devraient fortement augmenter dans les années à venir car le pays produit la majorité de son électricité à partir du charbon et que la consommation de cette énergie polluante pourrait doubler d'ici à 2025 pour accorder les 300 millions d'Indiens qui ne reçoivent pas encore d'électricité. Lors du sommet de la COP21 sur le climat en décembre 2015, New Delhi s'est donc engagé à opérer un changement drastique. Le gouvernement a promis que 40% de sa production d'électricité proviendrait de sources non fossiles d'ici à 2030 et que pour y arriver, il multiplierait par 25 en seulement 7 ans ses capacités de production d'énergie solaire. Ces grandes annonces semblaient irréalisables il y a un an, elles le sont bien moins aujourd'hui car grâce à la chute du prix des panneaux photovoltaïques et une impressionnante volonté des autorités, l'Inde est vraiment en train de réaliser sa révolution solaire. La révolution de l'énergie solaire, l'Inde peut-elle tenir ses promesses? C'est un grand reportage signé Sébastien Farsi.
Nous sommes en plein cœur de l'Inde du Sud, à environ 140 km de la cité des nouvelles technologies de Bangalore et loin, très loin de son urbanisation effrénée. Ici, tout autour de nous se trouvent des terres rouges et arides sur lesquelles poussent quelques arbustes seulement. Cette partie de l'état de l'Andhra Pradesh ne reçoit que quelques jours de pluie par an. Pas assez pour l'agriculture, mais des conditions parfaites pour récolter l'énergie du soleil. La société indienne Acme a ainsi installé ici, il y a un an, au bord du village d'Hindupur, plus de 345 000 panneaux solaires qui ont la capacité de produire 50 MW d'électricité. Celle-ci est ensuite redistribuée dans les 30 km aux alentours pour fournir de l'énergie à plus de 100 000 foyers. Dinesh Reddy est le responsable enthousiaste de ce parc, géré par seulement 15 employés à temps plein.
Construire un parc solaire requiert beaucoup de main-d'œuvre. Et en Inde, nous disposons de cette main-d'œuvre, ce qui fait que nous pouvons bâtir un parc de 50 ou 100 MW en environ 3 à 6 mois. Le plus long est de se procurer le matériel, car les modules viennent de l'étranger, de la Chine ou de Taïwan. Nous avons utilisé des panneaux à couches minces qui viennent de Chine. La température idéale pour la production d'énergie solaire est de 25 degrés Celsius. Mais en Inde, il ne fait jamais 25 degrés au soleil, mais plutôt 45 ou 46. Nous utilisons ces panneaux car ils nous permettent de perdre moins de rendement.
Est-ce que c'est difficile à entretenir un parc solaire?
Non, c'est très facile à entretenir, comparé à une usine thermique ou à n'importe quelle autre usine de production d'électricité. La majorité des problèmes viennent des câbles. Nous devons également nettoyer ces modules, 3 fois par mois. Cela ne consomme pas tellement d'eau. Nous pouvons laver ces 100 structures avec 5000 litres, que nous trouvons facilement au village local. Un autre souci, c'est qu'en lavant ces panneaux, l'eau rentre dans le sol, et ça fait pousser les herbes, qui créent ensuite de l'ombre sur ces panneaux. Nous devons donc engager des fermiers pour couper les herbes régulièrement. Mais l'aspect positif, c'est qu'à la fin de la vie de ce parc, dans 25 ans environ, nous aurons tellement arrosé ces terres qu'elles seront devenues cultivables, car nous aurons rechargé la nappe phréatique.
Dinesh Reddy nous emmène ensuite dans l'une des pièces les plus importantes de cette centrale, celle qui contient le convertisseur qui va transformer l'énergie brute et alternative créée grâce au soleil en courant stable et continu qui pourra être utilisé par le réseau.
C'est cette machine-là qui assure la stabilité de l'électricité, en éliminant tous les pics et les chutes de courant qui sont créés par l'énergie solaire.
Et si aujourd'hui on voulait stocker toute l'énergie que vous produisez, quelle serait la taille de la batterie?
Aujourd'hui, on ne trouve pas ce genre de batterie en Inde. Nous devons les apporter depuis les États-Unis. Eux ont développé une nouvelle technologie à partir d'ions de lithium, qui permet de réduire leur taille. Et tout de même, pour 1 MW d'électricité, nous aurions besoin de toute cette salle. Et cela doit être en plus une batterie de grande efficacité. Et cela coûte très cher, vraiment très cher.
C'est ce que vous dites, 1 MW, une pièce comme celle-là de 40 mètres carrés, 40 square meters, 40 mètres carrés par MW.
C'est beaucoup d'espace pour stocker l'énergie.
Mais c'était la même chose pour les modules au début. L'efficacité des panneaux était très basse, mais cela a rapidement changé grâce à son succès. Et aujourd'hui, en Inde, nous avons à peine besoin de 2,4 hectares par mégawatt. Cela baisse car la technologie s'améliore, et la même chose va arriver avec les batteries.
Vous me disiez avant que vous travailliez auparavant dans une centrale à charbon. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer ?
Le solaire, c'est la seule énergie qui peut satisfaire les demandes de l'Inde. Et elle connaît donc une énorme croissance. L'Inde a un besoin gigantesque en énergie pour croître, mais les centrales thermiques consomment beaucoup de charbon. Or, nous n'en avons pas en quantité, et donc nous avons besoin d'en importer. De plus, faire tourner de telles usines est vraiment compliqué, et vous sentez surtout, personnellement, que vous émettez énormément de CO2, et cela fait mal au cœur.
How old are you? I mean, vous êtes plutôt jeune. Quel âge avez-vous? How old are you?
28 years.
J'ai 28 ans.
So you'll be staying in this country for a long time.
Yeah, sure. That's a spectacular change which is happening.
Et je vois que nous vivons un changement spectaculaire en Inde. Le pays va dans la bonne direction en termes d'énergie, en encourageant l'ouverture de fermes solaires et d'éoliennes. Cela va assurer le progrès de l'Inde.
So this will take India into the next level.
Il y a 3 ans, l'énergie solaire relevait du confidentiel en Inde. Aujourd'hui, le pays est lancé dans une course effrénée qui fait émerger le photovoltaïque comme la nouvelle solution à ses manques énergétiques. La production installée double chaque année pour atteindre, au début 2017, plus de 10 gigawatts. Un chiffre qui sera encore une fois multiplié par 2 avant la fin de l'année avec l'inauguration des centrales en construction. En septembre dernier, la multinationale indienne Adani a ainsi ouvert la plus grande ferme solaire du monde, d'une capacité de production de 648 MW. Ces 2 500 000 modules de panneaux solaires fournissent de l'électricité à environ 750 000 personnes dans le sud de l'Inde. Lors de la COP21 de décembre 2015, le gouvernement indien a promis de limiter ses émissions de gaz à effet de serre en installant près de 100 gigawatts de photovoltaïque d'ici à 2022. Cela représentait alors une multiplication de ses capacités par 25. Irréaliste, clamaient la plupart des spécialistes. Pas tellement, finalement, la révolution solaire indienne est en marche. Ce bouleversement est porté depuis environ 3 ans par 2 facteurs. Une politique publique agressive d'abord, avec des exemptions de taxes pendant 10 ans sur les panneaux solaires, ainsi que la mise en place d'enchères inversées. Les autorités régionales attribuent ainsi les centrales aux compagnies qui promettent de produire l'énergie solaire la moins chère, ce qui pousse les tarifs vers le bas. Deuxième facteur, la chute rapide du prix des équipements. Explication de Vinay Roustagi, le directeur de Bridge to India, une société indienne de conseil en énergie solaire.
Ce qui s'est passé, c'est que les prix mondiaux de l'équipement ont baissé bien plus rapidement que ce à quoi nous nous attendions, et cela a beaucoup aidé le secteur. Le prix des modules solaires, qui représentent entre 60 et 70% des coûts totaux, ont chuté de plus de 25% en un an. Nous estimions qu'ils baisseraient de 5 à 10% seulement.
Et quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement indien pour promouvoir le solaire ?
Le gouvernement a obligé les compagnies de distribution d'électricité et les grandes entreprises à utiliser 10% d'énergie renouvelable d'ici à 2022. Par grande entreprise, je veux dire les grandes industries comme les aciéries ou les cimenteries qui consomment des centaines de mégawatts. Et si elles ne le font pas, elles sont pénalisées. Mais surtout, l'énergie renouvelable est en train de devenir financièrement attrayante, car son coût est en train de chuter en dessous du prix de l'énergie fournie par beaucoup de centrales thermiques ou par le réseau traditionnel, particulièrement l'électricité issue du charbon importé. Donc, en achetant de l'énergie renouvelable, vous ne faites pas que respecter les règles, vous réduisez également vos coûts de production. Et c'est ce qui devrait entraîner la croissance des énergies renouvelables de manière durable et sur une longue période. C'est le contraire de ce qui est arrivé en Occident. Là-bas, les subventions publiques ont encouragé la croissance il y a 3 ou 4 ans, mais quand elles ont soudainement baissé, comme il n'y avait pas de demande inhérente, la croissance du renouvelable s'est complètement arrêtée.
2 possibles obstacles pourraient freiner cette merveilleuse croissance du solaire en Inde. Le manque de terres d'abord et la disponibilité du capital. L'acquisition de terres est en effet très compliquée dans ce pays densément peuplé, car celles-ci sont généralement réparties en petites exploitations agricoles dont l'achat est très fastidieux. Ce problème est en partie contourné par beaucoup d'États fédérés qui offrent des terrains publics lors des appels d'offres. Le capital demandé enfin est très élevé. Il faut près d'1 milliard d'euros pour installer 1 gigawatt d'électricité solaire, ce qui demandera un investissement de 90 milliards dans les 5 ans à venir pour atteindre les 100 gigawatts visés par le gouvernement. Beaucoup d'argent, certes, mais celui-ci ne semble pas encore manquer. Lors du dernier appel d'offres conclu le 10 février par le distributeur public du Madhya Pradesh au centre de l'Inde, 20 différentes compagnies se sont en effet battues pour l'attribution des 750 MW d'énergie et l'un des vainqueurs a obtenu le contrat en garantissant de produire cette électricité pour moins de 3 roupies ou 4 centimes d'euros par unité, soit une chute du tarif de 25% en un an, et ce qui place aujourd'hui le solaire comme l'énergie la meilleure marché du pays. Du reste, l'Inde ne peut se contenter de construire des énormes fermes solaires dans ses plaines désertiques. Le gouvernement incite également les habitants à en installer sur leurs toits. Nous montons à présent sur les toits de l'un des plus hauts bâtiments de la ville de Gurgaon, en banlieue de New Delhi. La résidence de Bestek Parkview compte 700 appartements répartis dans 8 tours de plus de 40 mètres de haut. Depuis un an, le grand toit de chacune de ces tours est en partie recouvert par des panneaux solaires montés sur de solides barres de fer.
Ceux-ci sont des panneaux thermosolaires, c'est-à-dire qu'ils commencent à générer de l'électricité dès qu'il y a de la lumière et que la température est supérieure à 28 degrés. Nous avons une ferme d'une capacité de 273 kW qui est répartie sur les 8 bâtiments. Elle fonctionne ainsi pendant 5 à 6 heures par jour et fournit entre 8 et 10% de notre énergie, que ce soit pour les ascenseurs, l'éclairage commun ou les appartements.
Rajiv Verma est le trésorier du syndic de la résidence et il est celui qui a poussé tous ses propriétaires à réaliser ce projet novateur en Inde.
Je suis arrivé à Gurgaon en 2013 et 5 ou 6 mois après, j'ai commencé à avoir des problèmes pour respirer. Je toussais de plus en plus. Les médecins m'ont dit que c'était à cause de la pollution. Nous avons en effet des générateurs d'électricité au diesel dans la résidence, que nous utilisons en été lors des coupures de courant. Et ils émettent beaucoup de fumée. Je me suis alors dit qu'il fallait que je règle ce problème. Lors des élections du syndic, j'ai été élu au bureau d'administration. Nous avons alors contacté une entreprise qui nous a dit qu'elle pouvait générer de l'électricité solaire pour quasiment le même prix que celle publique, soit pour 7 roupies ou 9 centimes d'euros par unité, ce qui revient à 3 ou 4% plus cher que l'électricité publique. Or, nous produisons aussi de l'électricité par les générateurs au diesel, ce qui est 3 fois plus coûteux. La compagnie a donc installé ses panneaux et elle s'occupe de tout pendant 25 ans. Les répare si besoin et nous offre son expertise. Nous devons juste payer ce que nous générons, de la même manière que nous payons l'électricité publique. Et au bout des 25 ans, entre 30 et 40% de cette ferme solaire sera toujours opérationnelle et nous pourrons alors la racheter pour 5% de son prix si nous le souhaitons.
Donc au bout du compte, vous économisez même de l'argent par cette opération.
Nous l'avons fait avant tout pour l'environnement, car c'est une énergie verte. Nous n'économisons pas plus de 1500 euros par mois au maximum, ce qui revient à beaucoup d'économies en effet. Moi, je me sens mieux, j'ai fait quelque chose pour l'environnement, et je suis ravi qu'il y ait moins de fumée dans l'air.
Ce modèle économique semble en effet durable et de nombreuses entreprises fleurissent dans ce secteur. La compagnie Force Partner, par exemple, qui a installé les panneaux sur les toits de la résidence Bestek Parkview, a multiplié son chiffre d'affaires par 6 en à peine 2 ans pour atteindre aujourd'hui 14 millions d'euros. Une croissance qui devrait encore s'accélérer cette année, estime le vice-président de Force Partner, Brajesh Sina.
La croissance se trouve principalement auprès des clients commerciaux et industriels, car ils paient plus cher pour recevoir l'électricité du réseau. L'énergie solaire sera ainsi pour eux entre 10 et 20% moins chère selon les États. De plus, ils ont beaucoup d'espace sur leurs bâtiments pour installer des panneaux. Surtout, la plupart des États autorisent maintenant ces producteurs de solaire à renvoyer leur énergie dans le réseau commun. Et cela a rendu ce système beaucoup plus rentable. car ces entreprises ou administrations ne travaillent pas les samedis et dimanches et ne consomment alors pas l'électricité produite. Avant, elles devaient quand même payer pour l'électricité générée pendant le week-end. Maintenant, celle-ci est renvoyée dans le réseau et elle est comptée comme un crédit qu'elles pourront consommer plus tard.
Les autorités indiennes sont tellement confiantes dans leur croissance en énergie renouvelable qu'elles ont déjà surenchéri. En décembre dernier, l'autorité centrale de l'énergie a ainsi annoncé que 57% du potentiel de production électrique proviendrait de sources non fossiles dès 2027 au lieu de 40% en 2030 comme annoncé à la COP21. Dans son rapport, elle conclut que le pays ne devrait ainsi plus avoir à lancer la construction de nouvelles centrales à charbon, un changement radical pour un pays qui produit aujourd'hui plus des deux tiers de son électricité grâce à cette source polluante. Cependant, l'introduction de tant d'énergies renouvelables peut être périlleuse car celles-ci dépendent du climat et créent donc une énergie plus instable que les centrales à charbon. Cela va donc demander des améliorations importantes du réseau, explique Vinay Rustagi, directeur de la société de conseil Bridge to India.
Prenons une journée d'été à son pic, 10 gigawatts d'énergie solaire sont produites. Mais soudain, s'il y a un nuage ou des averses, toute cette énergie tombe et les autres sources, thermiques ou nucléaires, doivent rapidement prendre le relais. Cela crée d'énormes tensions dans le système de génération et de transmission de l'électricité. C'est pour cela que vous avez besoin de beaucoup de systèmes intelligents pour gérer ces incertitudes. Et d'importants investissements sont donc nécessaires pour pouvoir intégrer autant d'énergie renouvelable dans le réseau.
Et comment font les États-Unis ou les pays européens qui, eux, ont déjà intégré une grande partie d'énergie renouvelable dans leur réseau?
Il y a deux manières d'y arriver. D'abord, vous devez avoir assez d'électricité produite à base de gaz, car cette électricité est beaucoup plus flexible que celle produite à base de charbon ou que le nucléaire. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre très rapidement. Aux États-Unis, en Europe, le gaz continue à être une source considérable d'électricité. Ce n'est pas le cas en Inde et ça, c'est un défi. Un autre moyen de créer de la flexibilité, c'est la création de politiques tarifaires différentes pendant la journée, afin d'inciter les consommateurs à changer leurs habitudes.
Le dernier grand défi est le stockage de cette énergie renouvelable. Aujourd'hui, les batteries sont trop chères et prennent trop de place pour être installées dans chaque ferme solaire ou sur les toits de chaque bâtiment. Du coup, toute cette électricité ne peut pas être emmagasinée, ce qui empêche le solaire et l'éolien de complètement remplacer les énergies fossiles. Mais pour Chandra Bhushan, directeur adjoint du Centre pour la science et l'environnement de New Delhi, cette révolution technologique est très proche.
Nous avons fait des projections au Centre pour la science et l'environnement qui montrent que d'ici 2025, les énergies renouvelables équipées de batteries seront moins chères que le charbon. Quand ce sera le cas, vous n'aurez plus besoin de construire des centrales à charbon. Cela devrait arriver rapidement, car il y a tellement d'argent investi dans le développement de batteries, particulièrement par l'industrie automobile. Et nous assisterons à une vraie transformation dans le monde le jour où votre batterie aura la même densité énergétique que l'énergie fossile. C'est-à-dire qu'une batterie de la taille de votre réservoir d'essence, par exemple, pourra alimenter votre voiture sur la même distance. Cela représentera alors la fin de la plupart des technologies actuelles. La combustion interne disparaîtra, ainsi que les centrales à charbon et à gaz. À la place, vous emmagasinerez de l'énergie grâce au vent et au soleil et vous pourrez l'utiliser pendant toute la journée. Et je pense que dans cette évolution des énergies renouvelables, l'Inde se trouve au bon endroit et au bon moment.
Le gouvernement indien a lancé en décembre 2015, lors de la COP21, l'Alliance solaire internationale, dont le but est de réunir tous les pays situés sous les tropiques afin d'attirer des investissements, de développer et de partager des nouvelles technologies dans le photovoltaïque. Aujourd'hui, 24 pays ont intégré ce groupe, depuis le Sénégal ou le Mali jusqu'au Fidji, en passant par le Bangladesh. Cette organisation, basée en Inde, met du temps à émerger, mais elle montre déjà comment les pays du Sud peuvent s'unir pour créer leur propre modèle de développement énergétique. C'était la révolution de l'énergie solaire. L'Inde peut-elle tenir ses promesses? Un grand reportage en Inde de Sébastien Farsi, réalisation Lorenzo Lacchesi-Danet.